Plage 24.
Ça cogite là-dedans. Les cogitations de Anne.
Marc, un homme connecté. Voici le récit d'une journée de Marc, un homme moderne de 35 ans, gestionnaire de projet dans une grande entreprise à Bruxelles. Ce récit illustre comment les technologies de communication imprègnent le quotidien de Marc et modèlent ses interactions sociales et professionnelles. Comme beaucoup de ses amis et collègues, Marc est devenu un adepte des médias numériques. En effet, les technologies digitales comme Internet et les réseaux sociaux lui ont permis d'enrichir non seulement ses connaissances, mais aussi sa vie sociale et se tenir informé en temps réel et de manière interactive. Globalement, il a conscience de mieux organiser sa vie et de perdre moins de temps puisqu'il peut programmer à sa guise ses activités et interagir avec n'importe lequel de ces médias, comme regarder des vidéos à la demande, en streaming, sur son smartphone ou sur son ordinateur, écouter à tout moment ses musiques préférées, playlists sur Spotify en général, s'informer en ligne, naviguer sur les réseaux sociaux, jouer à des jeux vidéo, seul ou en réseau, et même contrôler à tout moment et à distance le système domotique de son appartement. Si vous voulez bien, observons-le dans sa vie quotidienne. À la maison, à 7 heures, Marc est réveillé, non par une alarme, mais par son assistant IA, intelligence artificielle, personnelle, c'est-à-dire une application logicielle qu'il a installée sur son ordinateur et qui utilise l'IA pour effectuer des tâches à sa place. Intégré à son environnement domestique, l'assistant IA ajuste la lumière, lance sa musique préférée et lui résume les actualités belges et internationales via un flux personnalisé qu'on appelle son Media Hub, sélectionné en fonction de ses intérêts et de son historique de navigation. Détendu, il prend son petit déjeuner et consulte ses messages. Mais sait-il que ce n'est plus lui qui choisit son information, c'est l'algorithme qui la sélectionne pour lui et la conçoit spécialement sur mesure, créant une bulle de filtre personnalisée. Sa consommation média est passive et optimisée, chaque instant est mesuré. Avant, si Marc lisait un journal ou regardait les nouvelles, il décidait ce qui l'intéressait. Maintenant, Marc n'a plus ce contrôle. Il ne reçoit que les sujets et les opinions avec lesquels il est déjà d'accord ou qui le divertissent. Une bulle de filtre s'est constituée petit à petit à sa mesure. Marc se sent bien chez lui depuis qu'il a acheté sa montre connectée et depuis qu'il s'est équipé aussi d'appareils domestiques munis de capteurs environnementaux. Il n'a plus peur des risques de cambriolage, peur des incendies, de la consommation excessive de chauffage ou d'éclairage et même d'éventuels dégâts des eaux. Il vit dans le confort et la sécurité. Même à distance, Marc se sent maître à bord. Mais sait-il que chaque information liée à sa consommation, chaque réaction émotionnelle est détectée par sa montre connectée? Et d'autre part, ses capteurs domestiques transmettent des données sur sa vie à la maison. Santé, sommeil, rythme cardiaque, habitudes matinales, toutes ces données viennent enrichir et affiner son profil numérique, c'est-à-dire son profil de consommateur et ainsi permettre aux médias numériques de cibler de façon plus pointue son profil publicitaire. Avec le temps, la notion de vie privée de marque à la maison disparaît. Voyons maintenant Marc au boulot. Marc arrive au boulot à l'heure, car grâce au GPS intégré dans sa voiture, il sait comment éviter les embouteillages. Au bureau, Marc utilise des plateformes de communication unifiées qui intègrent des médias sociaux internes comme des outils de visioconférence et des systèmes de gestion de projet. Ce sont des plateformes unifiées qui intègrent toute la vie de l'entreprise. Marc est surveillé sans vraiment s'en apercevoir. Son employeur a accès à l'analyse sémantique de ses communications avec ses collègues. Des algorithmes scrutent les échanges professionnels pour détecter les risques d'attrition, c'est-à-dire les risques de perte de clientèle, pour mesurer la rentabilité de l'employé et contrôler les partages d'informations éventuellement confidentielles. La notion de vie personnelle au travail disparaît au profit de l'efficacité et de la sécurité des données de l'entreprise. Pour se divertir pendant ses pauses, Marc a l'habitude de consulter son fil d'actualité personnelle. Tout au long de sa lecture, Marc est la cible d'une publicité qui entrecoupe son attention avec un niveau de précision de mieux en mieux adapté à ses goûts, ses intérêts, son désir de confort et de réconfort physique et moral. Rien d'étonnant puisque les annonces qui lui sont destinées se basent sur ses recherches personnelles récentes sur l'ordinateur ou sur le smartphone, mais aussi sur le ton de ses conversations privées analysées par l'IA et sur sa localisation en temps réel. La quantité de médias consommés par Marc génère tout doucement une surcharge d'informations permanente, qu'on appelle infobésité. Heureusement, il existe maintenant sur le marché des courtiers en attention. En anglais, on dit des attention brokers. Ce sont des plateformes numériques spécifiques qui vous aident à faire face à l'obésité et l'infobésité écrasante générée par l'excès d'informations que reçoit un individu, l'empêchant de les traiter et d'agir efficacement. Ces courtiers en attention évaluent et rentabilisent le temps passé par les utilisateurs de médias. Marc paye donc un courtier en attention pour recevoir moins d'informations et pour être déconnecté du bruit médiatique constant. Ce service de luxe qu'on appelle premium filtre les contenus considérés par Marc comme non essentiels et promet à Marc, contre paiement, de ne lui présenter que de l'information pertinente. Après le travail, que se passe-t-il? Eh bien, Marc adore retrouver des amis. Grâce aux nouveaux médias numériques, il ne se contente plus de se donner rendez-vous dans un lieu physique théorique. Lui et ses amis utilisent une plateforme de réalité augmentée pour prévisualiser virtuellement l'endroit de rendez-vous et son ambiance, avant de s'y rendre évidemment, car il ne faut plus d'improvisation malheureuse. Tout est sous contrôle. Marc utilise également les nouvelles technologies de traduction instantanée pour optimiser la communication avec ses amis étrangers. Il en a beaucoup. Les liens culturels et, de manière plus générale, les interactions sociales au-delà des barrières linguistiques sont enrichies par l'intervention de l'intelligence artificielle. Alors, après le boulot, commence la soirée. Et en soirée, pour se détendre, Marc, passionné de foot et de nouvelles technologies, utilise la technologie immersive pour regarder les événements sportifs. Cette technologie fusionne les mondes physiques et numériques en temps réel, permettant aux objets réels et virtuels de coexister et d'interagir. il regarde seul dans son appartement les matchs en direct via un casque de réalité mixte qui superpose les statistiques de jeu et le flux de discussion de ses amis directement dans son champ de vision. Le casque de réalité mixte est devenu la norme. Il vous fait passer de la deuxième dimension à l'immersion en trois dimensions. Le média n'est plus seulement regardé, il est carrément vécu. L'expérience est saisissante, mais la collecte de données comportementales l'est tout autant. Ses mouvements oculaires, son niveau d'engagement et ses réactions faciales sont enregistrés pour affiner davantage les algorithmes. Chaque réaction de Marc pendant le match de foot est monétisée. La publicité fait partie intégrante de l'expérience, personnalisée selon son humeur du moment. Que pensez-vous de la vie de Marc ? Écoutez, moi je pense que Marc a tout fait pour se faciliter la vie au quotidien. Il ne perd plus son temps, le numérique travaille pour lui et il se croit maître à bord. Il est sûr de lui. Même s'il a accepté de troquer sa vie privée contre des services médiatiques toujours plus personnalisés et efficaces, il ne se rend pas compte à quel point, il a troqué sa vie privée. Il perd de plus en plus sa liberté de choix et son ouverture vers les autres. Il donne en pâture au monde numérique tout ce qui définit sa personne, ses goûts, ses faiblesses, sa santé, son histoire, ses émotions, ses humeurs et même ses sentiments. Tout cela sans s'en rendre vraiment compte. Il est sous l'œil attentif des algorithmes qui façonnent et monétisent chaque instant de sa consommation médiatique. La journée de Marc illustre une société où la technologie n'est plus seulement un outil externe, mais un partenaire omnipotent. Les habitudes quotidiennes sont définies par un désir de confort, d'efficacité, de sécurité, mais qui se traduit par une dépendance croissante au système automatisé. L'évolution technologique des médias transforme et finit par éliminer la vie privée des individus. L'anonymat numérique est devenu presque impossible à maintenir, sans efforts techniques très sophistiqués. La personnalisation extrême a comme conséquence une société où chacun vit enfermé dans sa propre réalité médiatique, confortable, cloisonné, à l'abri des points de vue divergents. Dans le cadre de ce magazine centré sur l'évolution des médias, je ne pouvais pas ne pas consacrer mes cogitations aux conséquences de cette évolution vertigineuse. Alors, après la caricature de l'homme hyper connecté et le constat plutôt pessimiste de l'évolution d'une société quand même bouleversée par l'emprise des nouvelles technologies, je veux terminer mes cogitations sur quelques réflexions triomphantes ou en tout cas confiantes en l'homme avec un grand H, celui qui veut vivre en conscience dans le monde réel. Un grand titre dans un journal intitulé Courrier international, qui date de janvier-février 2026, est celui-ci. Il y a 15 ans, Internet était un moyen d'échapper au monde réel. Maintenant, le monde réel est un moyen d'échapper à Internet. En effet, dans cet article que j'ai lu en pensant à ces cogitations récemment, un titre, La vie sans smartphone, ou Comment retrouver le monde réel. Cet article illustre un changement de mentalité majeur en cours dans le monde. Lever les yeux de l'écran juste un instant, cesser de scroller à l'infini, retrouver sa capacité d'attention, faire silence, se concentrer. À l'heure où plusieurs pays, et notamment la France et la Belgique, tentent de réglementer l'accès aux réseaux sociaux pour les plus jeunes, ce journal Courrier international donne quelques exemples de résistance numérique pour tous ceux qui essaient de se passer de smartphone au moins quelques heures, parce que ça fait du bien. En Angleterre, on invente un moyen de bloquer son téléphone pendant quelques heures. Un gadget aimanté qui s'appelle la brick ou the brick, accompagné d'une application qui détermine les distractions qu'on veut bloquer sur son téléphone. Ce gadget permet de mettre en pause l'accès à ses réseaux sociaux préférés aussi longtemps qu'on veut. Pour rester déconnecté, il suffit d'approcher son téléphone de cet aimant appelé la brique. Aux États-Unis, une société Dumble & Company convainc les habitants de Washington de passer un mois hors ligne en abandonnant son smartphone pendant un mois. C'est payant. En contrepartie, on reçoit un vieux téléphone à clapet et l'accès à un groupe de soutien pour s'abstenir du smartphone. C'est très à la mode aux USA. Aux USA encore, la Journée mondiale de la déconnexion a été créée en 2009 déjà. Les premiers week-ends de mars, c'est-à-dire bientôt, si c'est vrai. En 2025, 1150 heures collectives de déconnexion ont eu lieu lors de 181 rassemblements déconnectés sur 6 continents. Comme en Amérique toujours, il faut toujours être éblouissant avec les chiffres pour étonner la galerie. En Australie, une journaliste a lancé la détox radicale, c'est-à-dire 5 jours sans smartphone. Et le commentaire de cette journaliste a été « Il est assez facile de se passer finalement d'écran pendant une heure ou trois, un jour ou cinq. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas grand-chose à perdre à laisser son esprit vagabonder. » En Espagne, le journal El País fait l'éloge de la lenteur. La résistance numérique peut être un projet collectif, dit ce journal. Un projet collectif et politique pour redonner toute sa valeur au temps libre et à l'expérience de l'autre. El País explique qu'il ne s'agit pas seulement d'éteindre son téléphone portable pour se désintoxiquer, mais de réapprendre la lenteur, la réflexion, l'attention profonde. Selon le philosophe espagnol José Carlos Ruiz, se déconnecter, ce n'est pas fuir, ce n'est pas s'isoler, mais c'est construire un autre monde possible. Cela nécessite une réappropriation consciente et collective de l'attention, un lieu où l'expérience des autres est centrale. En Allemagne, dans le journal Die Zeit, le pédopsychiatre Julian Schmitz suggère l'interdiction du smartphone aux adultes. Il dit ceci, si les adultes s'appliquaient à eux-mêmes les limites et les interdictions qu'ils veulent imposer aux enfants et aux adolescents, le problème de surconsommation des réseaux sociaux est un problème pour l'ensemble de sa société. Il suffit d'observer les aires de jeu du monde entier. Les enfants passent des heures à creuser dans les bacs à sable, ils se défoulent dans les structures d'escalade et jouent à cache-cache pendant que la plupart des adultes, eux, regardent leur smartphone. Comment pouvons-nous attendre des enfants et des adolescents qu'ils fassent preuve d'une maîtrise de soi suffisante alors qu'ils grandissent dans un monde d'excès numérique de la part des adultes? Tout ça est bien vrai. En Afrique du Sud, un atelier appelé Disconnect est proposé une fois par mois par le Serenity Social Club de Nairobi. Il invite à poser son smartphone pour échapper à ce qu'ils appellent la fatigue numérique. Au programme, yoga, céramique, tricot, pour se reconnecter à soi-même, à l'enfant qui est en soi et se connecter, disent-ils, à d'autres âmes. En conclusion de ce long chapitre consacré à l'homme connecté, voici, pour terminer, un extrait d'un article du journal de nouveau El País, signé d'un pédagogue spécialiste en neurosciences, Martha Romo. Le titre, Regagner du temps de cerveau disponible. Nous sommes happés par le défilé continu d'images, de posts et de vidéos sur nos écrans. Contre ce flux épuisant de stimuli, nous sommes invités à prêter à nouveau attention au monde réel. Le geste qui consiste à scroller offre distraction et amusement, mais il nous jette dans un infini de stimuli qui nous épuise et sabote notre capacité d'attention. Nous avons de plus en plus de mal à lire des livres et à mener des activités nécessitant un certain effort intellectuel. L'attention pourrait devenir le nouveau quotient intellectuel, le critère qui demain différenciera les individus. C'est l'attention qui nous permet de nous concentrer pour atteindre nos objectifs. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes capables d'agir sur notre attention. Notre cerveau est malléable et nous pouvons apprendre. La première étape, c'est la prise de conscience. La technologie n'est pas la coupable, elle est juste un amplificateur. Nous ne supportons plus de perdre notre temps. Nous nous éloignons de l'instant présent, nous vivons à la fois hyper connectés et profondément absents. Heureusement, nous pouvons diminuer notre exigence d'efficacité. Nous pouvons consacrer du temps à vagabonder, laisser de la place à l'imagination et à l'autre en face de nous. Cela ne signifie pas nécessairement se déconnecter, mais réapprendre à utiliser les réseaux sans leur vendre nos âmes. Apprendre à se connecter davantage, mais avec la vie.